Et le journal est présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Le patronat suspend sa participation à la négociation sur l'assurance chômage. MEDEF, CPME et UDP veulent une clarification du gouvernement sur le bonus-malus sur les contrats courts. Explication dans un instant d'Annabelle Grelier. Accompagner les parents dès la grossesse et assurer un meilleur suivi des enfants placés. Le nouveau secrétaire d'État à la protection de l'enfance esquisse sa feuille de route. Précision à venir avec Lola Fourmi. Au Caire, Emmanuel Macron appelle le président égyptien à agir en faveur des droits de l'homme. La stabilité et la paix durable vont de pair avec le respect des libertés de chacun, de la dignité de chacun et d'un état de droit, déclare le chef de l'État. L'opposant vénézuélien Juan Guaido appelle à de nouvelles manifestations cette semaine pour maintenir la pression sur le président Nicolas Maduro. Nous entendrons les témoignages de Vénézuéliens réfugiés en Colombie. La CPME, le MEDEF puis l'UDP ont successivement annoncé la suspension de leur participation à la négociation sur l'assurance chômage. Les organisations patronales n'ont pas apprécié l'insistance d'Emmanuel Macron concernant le bonus-malus sur les contrats courts. Le président tient à mettre en place cette mesure auquel le patronat est opposé. Bonsoir Annabelle Grelier.
Bonsoir Aurélie.
Pourquoi les patrons ont-ils jusqu'à claquer la porte aujourd'hui?
Bon, à vrai dire, ils n'ont pas vraiment claqué la porte. C'est un petit coup de poker que le patronat joue aujourd'hui face à un président Emmanuel Macron, qui pourrait être tenté en plein débat national de faire des promesses aux gilets jaunes. Le bonus-malus sur les contrats courts, s'il peut être un symbole fort pour les nombreux salariés touchés par la précarité, il est inenvisageable du côté du patronat, pour les grandes entreprises comme pour les artisans, qui estiment ne pas pouvoir faire autrement que d'avoir recours au CDD. Et le président de l'UDP, Alain Griset, n'hésite pas à passer aux menaces.
Vous savez, nos entreprises ont plusieurs choix. Hein. Elles ont le choix de dire j'embosse ou j'embosse pas. Il y a une autre solution, c'est de dire on prend plus de salariés, on prend des micros à la place, des contrats courts. Ça existe. Regardez comment on fait Uber aujourd'hui. Ils ne prennent des micros, ils ne prennent pas des salariés. Bon, moi, j'ai des collègues qui vont se dire, attendez, si jamais c'est pour mettre du malus à chaque fois qu'on prend un contrat court parce qu'on fait une communion pour un traiteur ou un mariage, ben, on ne va plus prendre de contrats courts, on va prendre des micros.
C'est le problème. Et pour échapper au dispositif du bonus-malus, le patronat lors de la prochaine séquence de négociations, proposer plusieurs mesures alternatives qui jusque-là n'ont pas convaincu les syndicats de salariés. Les déclarations d'Emmanuel Macron faussent la négociation, selon la CPME, qui a été la première à annoncer qu'elle suspendait sa participation. Écoutez son secrétaire général, Jean-Hugues Duménil.
On n'a pas d'autre solution aujourd'hui que de quitter la table, puisque on ne veut pas entendre et on ne veut pas laisser la place au dialogue. Bah écoutez, espérons que cette démarche permettra au président de la République de nous réaffirmer que oui, il y a une place pour le dialogue. Oui, si les partenaires sociaux trouvent une solution, le gouvernement la prendra en compte. Sinon, bah écoutez, il assumera les conséquences. Ça sera à lui de réformer le dispositif d'assurance chômage, de prendre des mesures qui ne seront pas forcément faciles à entendre. Et dans les circonstances actuelles, je pense que la tâche sera vraiment compliquée pour le gouvernement. Mais là, ça sera son affaire, ça ne sera plus la nôtre.
Voilà, donc la balle est maintenant dans le camp du gouvernement. Le risque pour le patronat, c'est d'être écarté des négociations et puis de jouer tout simplement l'avenir du paritarisme.
Lutter contre les inégalités de destin, c'est la mission que se fixe le nouveau secrétaire d'État en charge de la protection de l'enfance. Avec la ministre de la Santé et des Solidarités, Agnès Buzyn, Adrien Taquet a présenté à la mi-journée sa feuille de route pour l'amélioration de la protection de l'enfance en France. Trois axes ont été définis, Lola Fourmi, pour mieux accompagner les enfants en danger tout au long de leur parcours.
Oui, au premier rang desquels la prévention, agir en amont dès la grossesse pour soutenir les parents. C'était d'ailleurs une revendication partagée par de nombreux professionnels du secteur. Adrien Taquet a détaillé ce volet de la feuille de route.
Nous avons d'une part construit un parcours de périnatalité adapté à chaque femme, et ce dès le quatrième mois de grossesse, puis ensuite après la grossesse. Et puis nous avons mené une réflexion pour mieux soutenir la protection maternelle infantile. Il y a une mission en cours qui est menée par Michel Perron, une parlementaire, qui doit nous remettre mi-février, je crois, ses conclusions et dont nous allons nous inspirer.
Deuxième priorité, mieux alerter sur les situations de danger, encourager chacun d'entre nous à signaler en cas de doute une situation de potentielle maltraitance. Ensuite, et cela constitue le dernier axe, mais pas des moindres, le secrétaire d'État entend garantir aux jeunes de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, le respect de leurs droits et une protection effective qui passe notamment par une meilleure exécution des décisions de justice, mais aussi une meilleure prise en charge sanitaire, volonté réaffirmée et précisée par la ministre de la Santé, Agnès Buzyn.
L'objectif est clair, chaque enfant placé aura accès à une prise en charge à 100% d'un parcours de soins coordonnée, avec en plus un panier de soins, je dirais, élargi par rapport aux enfants non placés, notamment sur l'accompagnement en psychologue et en psychomotricien. Aujourd'hui, vous savez que les psychologues ne sont pas pris en charge par la Solidarité nationale et que je souhaite que ces enfants-là, en particulier, qui ont des besoins spécifiques dès la petite enfance, puissent accéder à un psychologue.
Alors, le Premier ministre avait promis des moyens supplémentaires. Lola, est-ce qu'une enveloppe a été annoncée ?
Non, aucun chiffre n'a été donné. Le ministère se donne le temps de mener la concertation pour estimer les besoins. Surtout, Agnès Buzyn l'a précisé, il s'agira là de mesures transversales qui impliqueront plusieurs ministères, celui de l'éducation ou encore du logement. Et chacun devra mettre sa pierre à l'édifice. Reste que la protection de l'enfance est et restera une compétence des départements. À eux donc, au final, de fixer les budgets.
Et si vous ne l'avez pas encore écouté, sachez que le grand reportage de vendredi dernier était consacré aux familles d'accueil, également appelées assistants familiaux. L'émission reste accessible sur franceculture.fr. Tous égaux, tous alliés, c'est le message véhiculé par la nouvelle campagne contre l'homophobie et la transphobie lancée dans tous les collèges et lycées. Selon une étude de l'IFOP, 18% des lycéens ou étudiants LGBT disent avoir été insultés au cours des 12 derniers mois et 72% des jeunes transsexuels vivent leur scolarité comme une mauvaise, voire une très mauvaise expérience. Fiona Mogadam, vous étiez ce matin au lycée professionnel Hector Guimard dans le 19e arrondissement de Paris, où le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, est venu rencontrer des lycéens.
Ils étaient une quinzaine de lycéens face au ministre de l'Éducation nationale. Tous ont travaillé sur différents ateliers avec l'association SOS Homophobie, des discussions, des débats, des diffusions de films. Une opération de sensibilisation à la lutte contre l'homophobie qui passe déjà par une prise de conscience, comme l'explique ce lycéen.
Il y avait des insultes homophobes qui sont dans notre vocabulaire presque courant. En fait, c'est ça le plus grave, parce que c'est de l'homophobie banalisée.
Une banalisation des insultes homophobes, bien souvent aussi du harcèlement, que Jean-Michel Blanquer entend donc combattre avec cette campagne lancée aujourd'hui.
On doit modifier les logiques de loi du plus fort, les logiques où il y a du harcèlement homophobe ou transphobe, parce que comme ça, l'élève qui fait ça se sent fort en faisant ça, alors qu'au contraire, il doit rapidement avoir honte et on doit lui faire comprendre qu'il y a d'autres chemins à prendre.
Le harcèlement homophobe, c'est ce que Djibril a vécu pendant 2 ans dans ce lycée parisien. Il n'a jamais osé en parler jusqu'à ce court métrage diffusé ce matin. 2 minutes où des jeunes témoignent du harcèlement dont ils ont été victimes.
Je m'appelle Gabriel, j'ai 17 ans.
Le harcèlement, les insultes, les crachats à côté, tu dois mourir, etc. C'est vraiment des paroles qui sont très blessantes. Puis ça laisse une pression psychologique tellement forte que j'ai malheureusement abandonné mes études juste avant les épreuves du bac. J'avais peur de revenir au lycée, j'avais peur des regards, des jugements. C'est une spirale infernale d'harceler quelqu'un.
Et les conséquences peuvent parfois être dramatiques. Le taux de suicide est 4 fois plus élevé chez les jeunes LGBT, rappelle l'association SOS Homophobie, qui a constaté l'an dernier une hausse de 38% des signalements d'actes homophobes et transphobes en milieu scolaire.
Fiona Mogadam. C'est officiellement demain, lors de la commission nationale d'investiture du parti, que l'on connaîtra la tête de liste de Les Républicains pour les élections européennes. Mais on le sait déjà, Laurent Wauquiez a choisi le philosophe proche de la Manif pour tous, François-Xavier Bellamy. En deuxième position, Agnès Evraine, présidente de la Fédération Les Républicains de Paris. Et en numéro 3, Arnaud Danjean, député européen spécialiste des questions de défense. Bonsoir Stéphane Robert.
Oui, bonsoir Aurélie.
Laurent Wauquiez essaye de constituer une liste qui rassemble des sensibilités très différentes. Les européennes sont un enjeu décisif pour un président qui est loin de faire l'unanimité.
Oui, plutôt que d'annoncer une tête de liste derrière laquelle se rangeraient tous les autres candidats, Laurent Wauquiez a choisi de présenter 3 noms. 3 noms susceptibles d'incarner les différents courants de la droite dite républicaine. Parce qu'il faut bien voir que c'est une liste en trompe-l'œil qui nous est présentée, là, avec 3 candidats derrière lesquels se dissimulent 3 autres figures du parti. Derrière François-Xavier Bellamy, qui sera donc officiellement tête de liste, il y a Laurent Wauquiez lui-même. Et plus précisément, la ligne politique qu'il défend, très ancrée à droite, une droite conservatrice, sensible aux questions identitaires et inspirée par le mouvement de la Manif pour tous. Derrière Agnès Evraine, vice-présidente de la région Île-de-France en charge de la culture et à la tête de la Fédération Les Républicains de Paris, on retrouve la droite tendance Valérie Pécresse, une droite conservatrice, mais plus respectable, moins identitaire que la précédente. Et enfin, derrière Arnaud Danjean, c'est la droite d'Alain Juppé, centriste, humaniste, très pro-européenne. Arnaud Danjean avait soutenu Juppé lors de la primaire de 2016 et il n'a pas grand-chose à voir avec ce que défend politiquement Laurent Wauquiez. Avec ces trois personnalités, Wauquiez a donc décidé de donner des gages, essayant de rassembler au maximum une droite plus affaiblie et plus divisée que jamais. Parce qu'il y a le feu à la maison. Les différentes enquêtes d'opinion réalisées ces dernières semaines donnent la liste LR entre 8 et 12% d'intention de vote. C'est catastrophique, explique-toi en interne. Il y a encore quelques mois, on imaginait au plus bas faire 15%. Désormais, la question est de savoir si une liste Les Républicains franchira les 10%. Et si on en reste à ce niveau-là, ce sera terrible pour le parti, mais aussi pour son président, Laurent Wauquiez, dont le leadership pourrait être remis en cause. C'est en quelque sorte sa place que joue là Laurent Wauquiez. Alors est-ce que cette liste composée de personnalités qui n'ont pas grand-chose à voir les unes avec les autres pourrait inverser la tendance? C'est une question qui trouvera sa réponse dans 4 mois maintenant, à la fin du mois de mai.
Stéphane Robert, nous avons une pensée ce soir pour l'équipe de France Bleu Isère, dont les locaux ont été incendiés la nuit dernière. Les programmes de la radio locale ont repris il y a une heure depuis les locaux de l'antenne régionale de France 3 à Grenoble. Le procureur de Grenoble a confirmé le caractère criminel de l'incendie et une enquête a été ouverte, Christophe Vincent.
C'est une certitude, nous dit ce soir le procureur Éric Vaillant. L'incendie est criminel avec un ou deux départs de feu et des traces d'hydrocarbures. Au rez-de-chaussée, tout est dévasté, mais pour le responsable technique, Pierre Vénua, la mémoire sonore n'est pas perdue.
C'est d'évaluer l'état des disques durs, éventuellement s'il y a des choses à reconstruire ou pas. On n'est pas super inquiet pour les archives. Sur le nombre de machines sur lesquelles elles sont, on devrait récupérer pas mal d'archives.
France Bleu Isère est hébergé par France 3 à La Tronche, d'où les émissions ont repris à 17h30 le directeur Jean-Louis Philippe.
On a touché à quelque chose qu'on chérit. La radio, c'est un métier de passion et on a fêté les 35 ans il y a une semaine. 2500 auditeurs invités au summum de Grenoble et d'un seul coup, vlan, le côté noir obscur de la force. Alors on a voulu nous faire rompre le lien avec nos auditeurs, mais le lien, il n'est pas rompu, il s'est même renforcé. Je regarde sur les réseaux sociaux les milliers de messages de soutien que nous avons. La radio, elle existe toujours.
De nombreux auditeurs disent leur solidarité, mais aussi des élus comme Émilie Chalas, députée En Marche.
La succession des incendies volontaires à Grenoble, qui sont 3 fois supérieures à la norme française, montre qu'il y a un message anti-institution, anti-démocratique au fur et à mesure de ces incendies et qui m'inquiète profondément.
Demain matin, France Bleu Isère a prévu une matinale spéciale.
Accueilli en grande pompe au Caire, Emmanuel Macron a été longuement reçu au palais présidentiel. Il a eu des entretiens intenses avec son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi, avec en toile de fond un dialogue de sourds sur la question des droits de l'homme par journaliste interposé. Le récit de Bertrand Galichet au Caire.
La question sur les droits de l'homme posée par la presse française au numéro 1 égyptien, s'ajoutant à l'intervention sur ce sujet d'Emmanuel Macron, a fortement déplu au président Al-Sissi. Ici en Égypte, nous ne sommes pas comme en Europe, pas comme aux États-Unis. Nous sommes une région qui a des spécificités, dit-il, en invoquant les défis que le pays doit relever. Une population de plus de 100 millions d'habitants, la menace de l'établissement d'un État religieux et les critiques des blogueurs qui défieraient le gouvernement. Vous ne devez pas nous regarder avec vos yeux d'Européens. Ce serait injuste, assène le président Sissi. Une exaspération reprise par un journaliste égyptien qui, à son tour, demande des comptes à Emmanuel Macron sur les droits de l'homme en France face à la crise des Gilets jaunes, ce qui lui vaut une réponse catégorique du président français.
En France, il est permis de s'exprimer librement. C'est la force d'une démocratie. Il y a dans notre pays une liberté qui est constitutionnellement garantie, qui est la liberté de manifester. Je déplore que 11 de nos concitoyens français aient perdu la vie durant cette crise, bien souvent en raison de la bêtise humaine. Mais aucun d'entre eux, aucun, n'a été la victime des forces de l'ordre. Aucun.
Emmanuel Macron qui insiste sur le lien entre stabilité d'un État et le respect des droits de l'homme.
Nicolas Maduro est sous la pression croissante de l'opposition vénézuélienne. Le président du Parlement et président autoproclamé du pays, Juan Guaido, appelle à de nouvelles manifestations pour obtenir des élections. Et pendant ce temps, la situation se dégrade toujours pour les Vénézuéliens. Des milliers d'entre eux se réfugient à la frontière côté colombien, dans la ville de Cúcuta. Écoutez le reportage de Nathanaël Charbonnier.
La palette des émotions à Cúcuta est aussi large que le Venezuela est grand. Mais ce qui est impressionnant, c'est cette urgence de vivre qui s'invite partout où les Vénézuéliens passent. Urgence de vivre qui pousse à se soigner, à manger, à protéger les enfants. Quand enfin ces urgences-là sont passées, alors seulement la politique peut s'inviter dans les discussions et la parole se libérer. Gladys a une quarantaine d'années, Elle est là avec sa fille. C'est avant tout pour elle qu'elle se bat et qu'elle cherche à comprendre comment son pays a pu en arriver là.
Des sentiments comme de la contrariété, de l'énervement, du désespoir, il y en a beaucoup. Mais ce n'est pas en nous insultant qu'on réglera nos problèmes. J'ai quitté mon pays pour que ma fille ne voie plus de violence. Je suis ici pour essayer de lui donner une meilleure stabilité économique, émotionnelle, sociale et spirituelle.
Gladys imagine un monde meilleur pour les siens. José Luis, lui, possède sa solution. Aujourd'hui, il vend des bonbons pour gagner sa vie, mais la clé du problème, il la voit ailleurs. Elle pourrait venir des États-Unis, mais à une condition.
Si les États-Unis envahissent le Venezuela, on a peur de ce qu'ils pourraient faire. Nous, on ne veut pas de sang. Si c'est pour nous aider à virer Maduro, ils sont les bienvenus. Mais sans qu'une goutte de sang ne soit versée. Parce que le peuple n'est pas responsable des erreurs commises par le président Maduro ou des erreurs de l'opposition, parce qu'ils ne pensent qu'à eux.
Mais à quoi bon aller chercher les Américains quand on peut se débrouiller tout seul? L'homme qui veut maintenant intervenir ressemble à un vieux sage. Sa barbe blanche vient taquiner sa chemise, lui aussi vient chercher de l'aide à la frontière et pourtant, il se montre très indulgent avec l'action de son président.
Maduro a beaucoup aidé les pauvres en offrant des maisons. Il a aussi donné une retraite aux anciens. Il a aidé beaucoup de gens, mais beaucoup de personnes sont ingrates. Il a offert une maison à ma fille, par exemple, en cadeau, et une autre à mon fils et à ma mère qui n'avaient pas de toit. Beaucoup d'entreprises étrangères vont s'installer au Venezuela. C'est ce que nous a dit Maduro. Donc il va y avoir aussi plus de travail. Et moi, je le crois.
En attendant le coup de baguette magique espéré par ce vieil homme, ce sont des milliers de Vénézuéliens qui tous les jours traversent la frontière pour venir ici en Colombie. Il faut dire que les autorités colombiennes n'ont pas vraiment le choix. Et puis, il y a comme une dette qui traîne au fond de leur cœur, comme explique le directeur de l'immigration en Colombie, Christian Kruger.
Auparavant, l'immigration, c'était les Colombiens qui allaient au Venezuela. Aujourd'hui, c'est le moment de rendre l'appareil au peuple vénézuélien en leur donnant la possibilité de s'installer en Colombie. En ce moment, il y a beaucoup d'attentes chez les Vénézuéliens pour un possible changement dans leur pays. Si ce changement se produit, la migration devrait se réduire. Mais s'il n'y a pas de changement et que cette dictature continue, on va avoir une augmentation du nombre de migrants. Et c'est ce que cherche ce type de régime.
Et tous les mois, 100 000 personnes quittent le Venezuela.
Nathanaël Charbonnier avec Gilles Gallinaro à la technique. En une semaine de manifestation, 850 personnes ont été arrêtées et la répression a fait au moins 35 morts au Venezuela, selon le nouveau bilan fourni par plusieurs ONG. Au Sénégal, l'élection présidentielle approche. La campagne pour le premier tour doit commencer ce dimanche et l'Union européenne lance aujourd'hui sa mission d'observation. Il faut dire que le contexte est particulièrement tendu en raison de l'exclusion de deux leaders de l'opposition, Khalifa Sall et Karim Ouad. Le local du candidat Ousmane Sonko a été saccagé. Ce week-end, la société civile a appelé les opposants au calme, leur demandant de cesser les appels à la violence. On retrouve William Delesseux à Dakar.
Pour Elena Valenciano, députée européenne et directrice de la mission, tous les candidats doivent mener campagne de façon responsable.
Il est très important de maintenir un climat de tranquillité pour que les citoyens se sentent convoqués à participer aux élections. Donc tous les acteurs politiques devraient faire un effort pour que, en effet, le processus soit paisible.
Un appel à la responsabilité formulé ce week-end déjà par la société civile. Dans le viseur, une partie de l'opposition qui s'est coalisée contre le président sortant et candidat Macky Sall. Certains souhaitent l'empêcher de faire campagne. Inacceptable, dénonce le défenseur des droits de l'homme, Ibassar.
Nous avions le devoir de dire arrêtez, qu'on fasse au Sénégal une campagne électorale civilisée, sans violence. Nous ne voulons pas d'une campagne avec des violences.
Condamnés à des peines d'emprisonnement, Karim Ouad et Khalifa Sall, deux leaders de l'opposition, ont été exclus de la présidentielle par le Conseil constitutionnel du pays, générant une frustration, estime Amadou Sall, du Parti démocratique sénégalais.
La violence vient du camp du pouvoir. Et quand on subit la violence, on riposte ou on se défend. Nous n'arrêterons pas de demander aux Sénégalais de s'organiser un comité de résistance. Nous avons en face de nous un pouvoir dictatorial qui arrête, emprisonne, exile. Qui sème le vent, récolte la tempête.
5 candidats sont retenus pour le scrutin. Ils pourront commencer officiellement à faire campagne le 3 février.
William Delesseux à Dakar pour France Culture. Demain mardi, il va pleuvoir sur une large moitié ouest de l'Hexagone. En fin d'après-midi, la pluie deviendra neige au nord de la Loire jusqu'à l'Île-de-France et les Hauts-de-France. La journée sera plus calme dans l'est. Les températures seront généralement comprises entre 0 et moins 4 le matin, 1 à 10 degrés l'après-midi, 9 à 13 près de la Méditerranée. Ce journal a été préparé avec Benjamin Ducy.